Radio Okapi. Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans cette émission de Radio Okapi intitulée Regard sur la totale de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué de la totale de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la côté de la semaine, nous recevons ici au studio Madame Faïda Mwangula. Elle est membre de la société civile. Elle est experte en genre. Bonjour Madame Faïda Mwangula.
Bonjour Monsieur Guy et bonjour à tous nos auditeurs.
Nos auditeurs, oui. En ligne depuis Bruxelles, John Kanyunyu, il est correspondant de la radio internationale allemande Deutsche Welle. Bonjour John Kanyunyu.
Bonjour Guy Mathé et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Okapi qui nous suivent à pareil moment.
Et aussi en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Gabène à Boutembo en RDC. Bonjour au professeur Pierre Virgence.
Bonjour à tous les auditeurs et aux participants de cette émission.
Merci à tout de suite pour la rétrospective des faits de jour d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Votre connexion internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir des infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de John Kanyunyu. Il est correspondant de la radio internationale allemande de Deutsche Welle. Madame Faïda Mwangula, elle est membre de la société civile et elle est experte en genre. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Gabène à Boutembo en RDC. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir Forum provincial de Beni, l'armée veut des opérations multidimensionnelles contre les EDF, les enjeux de l'intensification des combats autour de Rubaya, et enfin, bientôt les mois de la femme, comme pour célébrer la journée internationale de la femme, le 8 mars 2026. Quelle nouveauté cette édition 2026 apporte au pays? Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la question liée à la spoliation des biens fonciers et immobiliers en RDC. En effet, la République démocratique du Congo est confrontée à l'un de ses fléaux les plus dévastateurs, la spoliation des biens fonciers et immobiliers. Derrière ces phénomènes, ce sont des milliers de familles, d'entreprises, des services publics et même des missions diplomatiques qui se retrouvent privées de leurs droits dans un climat d'insécurité juridique qui mine la confiance nationale et internationale. Réuni le vendredi 13 février en Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de sortir de l'inaction. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a porté devant ses collègues un dossier explosif, celui de la spoliation systémique des terres et immeubles en RDC, une réalité qui touche aussi bien l'État que les citoyens ordinaires et qui alimente conflits sociaux, violences urbaines et blocage de l'investissement. Face à l'ampleur du phénomène, le ministre de la Justice a proposé une série de mesures urgentes visant à reprendre le contrôle du foncier national. Son plaidoyer a reçu un soutien politique fort au sein du gouvernement. John Kanyunyu, quelle est votre lecture de cette question liée à la spoliation des biens fonciers et immobiliers en RDC?
Oui, ça c'est un problème qui est à la base de plusieurs conflits dans certaines villes et villages de notre pays. Parce que avec des services spécialisés de ce domaine-là et avec certains compatriotes qui préfèrent acheter peut-être des biens immobiliers appartenant à d'autres personnes et qui achètent non pas par la voie légale ou par des personnes habilitées. Moi, j'avais assisté à un phénomène à Beni. Il y a un monsieur qui cherchait une concession qui avait dit à celui qui devait la lui vendre et dit non, bon, la valeur c'est autant et moi je vais te donner autant et autant des pourcentages je vais réserver au cas où l'affaire tournait mal pour aller à la justice. Donc c'est vraiment un phénomène que le ministre de la Justice doit éradiquer, mais malheureusement, il prend ce combat comme un combat privé, je pense que ça va pas marcher. Il faut qu'il ait l'appui surtout du président de la République, parce qu'au moins lui peut dire un mot et les choses peuvent changer. Bien sûr, il y a la justice qui est en train d'être réformée. Nous pensons que ça va marcher de ce côté-là, mais c'est vraiment un phénomène qui est à la base de certains conflits et qui finissent malheureusement par des meurtres. Donc le gouvernement doit y mettre beaucoup plus d'attention particulière pour éviter des conflits inutiles qui poussent même certains gens à aller prendre des armes pour venger leur bien spolié. Et maintenant, ce qui est grave, c'est que même les concessions de l'État, les maisons de l'État sont spoliées comme si l'État voilà. n'existait pas. Donc, c'est un combat dur. Je pense que comme le ministre de la Justice, il met beaucoup plus d'énergie, peut-être avec l'appui de la présidence, ça va payer, mais bon, c'est quand même un pari risqué.
Merci Madame Faïda Mwangiloua. Justement, maintenant que le gouvernement décide de sortir de l'inaction, est-ce que vous pensez qu'on peut espérer ne plus assister à ces phénomènes qui inquiètent, qui dérangent beaucoup de Congolais, ces phénomènes d'expoliation des biens fonciers et immobiliers dans ces pays?
Vous savez, Monsieur Guy, c'est quand même honteux. Nous sommes des Congolais, mais lorsque des dirigeants, des responsables se comportent comme, je ne sais pas, dehors la loi, ça devient difficile. Lorsqu'on parle d'expoliation de terre, lorsqu'on parle même de falsification des documents, des titres et tout, si vous allez dans nos cours et tribunaux, vous allez trouver que presque tous les dossiers concernent la question des terres. Et même dans les zones de conflit, les gens qui connaissent bien le Nord Kivu, le Sud Kivu, la partie Ituri, c'est toujours des problèmes de terres. Et souvent, il y a une certaine complicité, à la fois par les dirigeants, les agents fonciers,
les magistrats, les avocats.
Non. Moi, je pense qu'il y a lieu de prendre cette question en priorité. Il ne faudrait pas que ça soit le dossier du ministre Guillaume Ngefa, mais il faut qu'il soit soutenu par d'autres membres du gouvernement. Qu'est-ce qui fait que des gens se comportent comme des mercenaires dans leur propre pays? Je me suis toujours demandé. Dès qu'une personne est au pouvoir, cherche à prendre tout pour lui, tout alors. Et vous allez trouver que des populations, des enfants, restent comme ça en difficulté. Cette question, c'est une question honteuse et il faudrait qu'on y trouve vraiment des solutions. Nous sommes le seul pays où quelqu'un peut se réveiller et te dit que le stade de martyr lui appartient. C'est incroyable. Et des personnes courageuses. Vous pouvez connaître, non, ça c'est la maison de tel, mais la personne vient. Et on sait que ça appartient à tel service étatique. Et la personne trouve un titre. Donc, je crois que si vraiment on voudrait refonder l'État, on doit commencer par une telle question qui laisse beaucoup de victimes, principalement les enfants, les femmes, les tout. Tout le monde est touché par ce problème-là.
Merci, professeur Pierre Vigence. Est-ce que ce phénomène d'expoliation des biens fonciers immobiliers qui est vécu, n'est-ce pas, dans ces pays en RDC, est-ce que vous les vivez aussi de la même manière en Belgique d'où vous intervenez?
Non, parce qu'en Belgique et dans la plupart des États modernes, il y a d'une part un cadastre foncier qui inscrit qui est propriétaire de quoi à quel moment, et ce cadastre est relié à ce qu'on appelle un registre des propriétés et des hypothèques qui, lui, organise sur le plan civil le suivi de ce problème-là. Donc, on a deux registres, en fait, qui évoluent en parallèle, qui permettent à l'État de savoir toujours qui est propriétaire de quoi, et si quelqu'un veut acheter un bien, la première chose qu'il doit faire, c'est vérifier si la personne qui se présente comme étant le vendeur est bien le propriétaire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que tous les États qui ont réussi, je dirais, à rentrer dans la modernité, si on veut, et permettre la liberté de commerce, sont basés effectivement sur une clarification de qui est propriétaire de quoi. d'une manière ou d'une autre, il faut effectivement qu'il y ait des registres et une certification de qui est propriétaire de quoi. Et c'est un travail à très long terme, c'est pas quelque chose qui se fait en 4 ans.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Madia Buana des Papa Noël Nedoulé et on se retrouve juste après. Diabona de Antoine Nedoulé Motuet, alias Papa Noël. Papa Noël nous a quittés le 11 novembre 2024 en France à l'âge de 84 ans. Paix à son âme. On revient à l'actualité cette semaine à Beni, où chaque avancée sécuritaire compte pour des milliers de familles. La province s'est exprimée d'une seule voix. Mettre fin aux exactions des EDF n'est plus seulement une priorité, c'est une nécessité vitale. Clôturé le mercredi 25 février dans cette ville qui abrite provisoirement les institutions provinciales du Nord Kivu, le forum consacré à la menace EDF a abouti à une série d'engagements forts. Un moment chargé d'émotions où les participants ont salué les efforts des FRDC appuyés par la MONUSCO et l'armée ougandaise tout en appelant à intensifier les opérations conjointes pour tourner définitivement la page de la peur. Les recommandations adressées au gouvernement congolais, à la MONUSCO, à Kampala et à la communauté internationale portent l'espoir d'une population qui aspire à retrouver sa tranquillité, sa dignité et sa vie. Les participants ont souligné l'importance du partage en temps réel des informations par la population, appelant également à cesser toute attaque contre la MONUSCO et à renforcer la confiance entre acteurs étatiques et non étatiques. Les leaders communautaires doivent collaborer avec les FRDC, ne pas soutenir les EDF, lutter contre la désinformation, promouvoir un usage responsable des réseaux sociaux et appuyer les opérations conjointes. Les officiers des FRDC qui ont pris part à ces forums ont estimé qu'il faille des opérations multidimensionnelles contre les EDF. Professeur Pierre Virgence, vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique, de Graben à Butembo en RDC. Vous avez souhaité nous parler justement de cette actualité relative à ces forums qui s'est tenu à Beni du 23 au 25 février sur la problématique EDF. On vous écoute.
Oui, donc tout à fait. Donc mes collègues de l'université catholique du Graben à Butembo ont confirmé la grande affluence lors de ce forum. On parle de 900 personnes présentes. Donc effectivement, comme vous l'avez souligné, ça montre bien comment le peuple du Nord Kivu espère vraiment fortement que la paix puisse revenir et après à prendre toute une série de mesures et effectivement transmet des informations régulièrement via les organisations de la société civile aux autorités. Et le problème, c'est effectivement de se poser la question de l'efficacité de ce forum, puisque l'organisateur, c'est le président de l'Assemblée nationale, un élu du Sud Kivu, qui évidemment, dans les circonstances actuelles, ne peut plus se présenter dans le Sud Kivu, puisque ce n'est pas l'État congolais qui règne, qui a pu organiser quelque chose à Beni avec l'autorisation des forces armées ougandaises, et donc effectivement on a l'impression que là il s'agit un petit peu de faire de la publicité. Par contre, il faut quand même souligner que ce n'est pas la première fois qu'un forum se tient dans ces conditions-là. Ce mois-ci, encore en février, il y a eu une rencontre importante entre le FARDC et les UPDF, trouver effectivement des moyens d'améliorer la communication. Donc maintenant, on a l'impression que le fait que l'armée congolaise dise qu'il faut une action multidimensionnelle, c'est une manière d'une part d'avouer qu'elle n'a pas les moyens d'agir seule, ça on le savait déjà, les forces armées congolaises ne disposent pas de suffisamment de logistique, mais d'autre part aussi que l'organisation de lutte globale contre les AFD sont très loin d'être coordonnées, donc on a un vrai problème. La MONUSCO avait aussi organisé d'ailleurs un colloque fin janvier pour expliquer les processus de paix, et on a l'impression qu'il y a régulièrement dans cette région des gens qui font comme si ils allaient régler le problème de la paix et dans ce cas-ci de l'occupation illégale et des exactions de l'AFD, de l'ADF, pardon, mais effectivement on est toujours dans l'attente de quels engagements fermes. Voilà, on voit bien que les activistes des droits humains ont énormément d'espoir, la population aussi, mais on se demande toujours comment ça pourrait avancer et comment concrètement l'armée congolaise, la MONUSCO et les forces armées ougandaises vont réussir à éliminer ce véritable fléau qu'est l'AFD, puisqu'on sait que cette organisation est affiliée à l'État islamique. Et une petite phrase est quand même intéressante, c'est de voir que on donne comme recommandation que les chefs coutumiers ne fassent plus alliance avec les ADF. Ça veut donc dire qu'il y a des chefs coutumiers qui considèrent que la situation est tellement catastrophique que parfois il vaut mieux faire alliance avec les ADF qu'avec les autorités régulières. Et donc ça, c'est très inquiétant, effectivement, et très révélateur de la situation de respect de l'État en RDC, et spécifiquement dans l'Est de la RDC, c'est que une partie des chefs coutumiers qui devraient être les premiers piliers de soutien du fonctionnement de l'État, visiblement se détachent un peu de l'État parce que l'État les déçoit, parce que l'État s'occupe plus de s'occuper de ce qui se passe à Kinshasa, là où il risque d'être en conversée, que de ce qui se passe à des milliers de kilomètres de là, et peut-être même que certains en tirent des profits dans l'exploitation des mines de coltan. Mais ça, c'est un autre sujet qui abordera cette question.
Merci, Madame Faïda Mandilois. Vous êtes membre de la société civile, vous êtes experte en genre. Et les participants ont souligné l'importance du partage en temps réel des informations par la population, appelant également à cesser toute attaque contre la MONUSCO et à renforcer la confiance entre acteurs étatiques et non étatiques. Comment vous réagissez à toutes ces recommandations?
Merci beaucoup. Disons, c'est quand même très dommage pour une population, les populations de toute cette partie du pays, plus de 3 décennies. Toujours des conférences et des ateliers, et tout comme venait de le dire mon prédécesseur. C'est pas la première fois. Il y a toujours eu des colloques, des réunions. Je me rappelle encore avec Michel Kassa qui rassemblait toutes les forces vives, les chefs coutumiers, les chefs traditionnels et tout. Vous savez, vous êtes d'abord dans une situation de guerre. Et puis dans une situation de guerre, vous vous retrouvez dans une partie du pays et vous parlez des ADF. Oui, pour la population, à un certain moment, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Mais les gens ne peuvent pas croiser les bras. Il faudrait que l'ensemble des dirigeants congolais soient ouverts au dialogue, soient ouverts en tout cas à des solutions durables. Parce que pour la population, à un certain moment, elle se retrouve être abandonnée, elle ne comprend rien, on peut annoncer les opérations, mais c'est le pire qui commence. Parce que quand on parle d'opérations, les armes n'ont pas de choix. Quand on tire, tu es là, civil ou militaire ou ADF ou quoi, tu es parti. Donc, moi, je crois qu'il faut une solution durable et qui touche l'ensemble du pays. Et ce n'est pas mal de continuer à réfléchir ce qu'a fait le président de l'Assemblée. Ok, c'est pas mal de continuer à réfléchir, mais ce qui est plus important, c'est de voir le problème sécuritaire dans son ensemble et y trouver des solutions. Ce ne sont pas des intelligences qui manquent, mais c'est une question...
Donc mettre en place une stratégie nationale de défense...
Une stratégie nationale, pourquoi pas même accélérer avec la politique nationale de sécurité. Nous ne pouvons pas rester en arrière des années et des années, et nous sommes en train de nous plaindre, et nous sommes en train de périr. Notre population, nos populations sont en train de périr. Les gens qui pensent que c'est de la blague ou c'est quoi, mais non. Mettons-nous ensemble et travaillons pour la sécurisation de notre population. Et je pense à lorsqu'on y va comme ça, sans passion, sans sentiment, on peut trouver des meilleures solutions.
Merci. John Kanyunyu, correspondant de la radio internationale allemande de Deutsche Welle. Il faut des opérations multidimensionnelles selon l'armée congolaise. À votre avis, à l'approche militaire, quelle autre démarche peut-on utiliser pour réduire ou éradiquer la menace ADF?
Oui, j'ai suivi avec attention le forum organisé sur la problématique des ADF, le forum organisé par le gouvernement provincial du Nord Kivu, que dirige le général-major Evariste Kakule-Somo. Et moi, je pense que c'est une bonne approche, parce que les opérations, il y en a eu, c'est depuis 2014. Donc, les opérations contre les ADF ont été lancées à Beni le 16 janvier 2014 par feu général Baouma Ambamba. Et les opérations se sont bien déroulées avant la mort du feu général Baouma. Et c'est juste après sa mort, en octobre 2014, que les massacres des grandes envergures ont commencé. Et depuis lors, il y a des opérations qui se succèdent. Alors, Maintenant, nous sommes dans la phase des opérations conjointes entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Ça fait au moins quelques 4 ans, 6 à 5 ans maintenant, que ces opérations conjointes existent. Et dès lors que on a l'impression que ces opérations conjointes, bien sûr, il y a des acquis dans ces opérations, mais je pense que cela n'empêche pas les autorités de réunir certaines couches pour parler de cette problématique-là et pour finir des stratagèmes pour en arriver au bout. Et pendant que ces forums avaient lieu à Beni, j'ai suivi une vidéo des ABF parlant du même forum. Donc, en suivant entre les lignes l'intervention de tous les trois, parce que dans cette vidéo il y avait trois ADF qui intervenaient, vous comprenez qu'ils sont aussi dans la logique du dialogue, des négociations. Alors, moi je pense que l'approche des rencontres comme celle du forum organisé à Beni la fois dernière, en tout cas sont encouragées pendant que les opérations militaires sont aussi en cours. Parce que à un moment donné, peut-être c'est une information pour certains, dans le territoire des Mambasa, à Mungamba, plus précisément si ma mémoire ne me trahit pas, il y a maintenant un système de jetons. Il y a des cultivateurs qui accèdent à leurs champs moyennant des jetons, moyennant des taxes qu'ils payent aux ADF. Et moi, je pense que peut-être cette approche-là, c'est une façon de dire aux autres que non, mais là, voilà, si vous payez des taxes, nous, on va pas vous égorger, comme ça a toujours été le cas. Et moi, je pense que cette approche-là, du forum organisé à Beni, c'est vraiment une approche à encourager pendant que les opérations se poursuivent. Mais il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il y aurait, entre guillemets, d'approche pour négocier avec ces gens qui, ça fait maintenant 10 ans depuis qu'ils ont commencé à massacrer, à égorger les gens chez moi, parce que je dois dire à certains de nos auditeurs que moi je suis originaire de Beni, donc Beni c'est chez moi, et c'est là que ces massacres ont commencé avant de s'étendre sur l'Ituri, les territoires des Lubero actuellement. Donc, toutes les approches sont bénéfiques ou envisageables pourvu que on atteigne l'objectif. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'arrêter ces massacres, parce que ça trop duré. Et c'est tous les jours que les gens se déplacent, c'est tous les jours qu'on apprend qu'on a égorgé. Alors, si l'autorité ou les autorités peuvent se dire, maintenant, avec les opérations, ça n'a pas marché, alors voyons, parce que de toutes les façons, les ADFK, ils ont des renseignements, ça vient d'où? Hein, ils doivent avoir ils ont des cellules dormantes qu'ils activent au moment qu'ils veulent, et je pense que toutes ces approches-là doivent être passées à revue pour peaufiner des stratégies et voir comment en arriver à la fin. Mais moi je pense que comme le pays est en guerre avec la guerre contre l'AFCM 23, et c'est sûr que Lubero, Beni, Irumu, Mambasa, il y a une sorte de ralentissement, mais la guerre contre l'AFCM 23 ne peut en aucun cas empêcher à ce que les autorités et la population réfléchissent pour trouver des solutions par rapport à ce qui se passe en Ituri, dans les territoires des Beni, Lubero, pour en finir avec les ADF. Et je pense que avec les dires de ces gens, bien sûr, ce sont des terroristes, mais à mon avis, en suivant la vidéo dont je viens de vous parler, donc ça prouve qu'à un moment donné, eux aussi, ils peuvent se fatiguer d'égorger, de tuer les gens, tout le monde. Merci. Donc si, on peut dire, il peut y avoir une approche de négocier avec ces gens, même dans les coulisses ou à Katimini, tant mieux pour que la population vague à ses occupations. Merci. Parce que la population de Beni, de Irumu, de Mambasa, de Lubero, la population n'a besoin de rien à part la paix. Merci. S'il y a la paix là-bas, la population sait travailler le champ, travailler la terre pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, toutes les approches possibles sont envisageables et sont encouragées pourvu qu'on trouve la solution, pourvu que le massacre s'arrête dans cette contrée. Parce que ça en est trop. Il y a des chiffres qui font froid au dos, des chiffres qui ont été communiqués lors de ces forums-là, donc ça doit s'arrêter. Voilà un peu mon point de vue. Il y a les opérations conjointes qui sont là, qui sont en cours.
Merci.
On a encourage, mais aussi, cela ne prouve pas qu'on ne peut pas non plus envisager d'autres approches, notamment les dialogues ou les négociations, comme je venais de le dire.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le vendredi 13 février, on a commémoré la mort de Jean Emenea Mubiala Kwamambu, dit King Kester Emenea. Ce célèbre musicien, chanteur et auteur-compositeur congolais nous a quittés le 13 février 2014 à Paris, en France, à l'âge de 57 ans. Et pour lui rendre hommage, nous allons écouter l'une de ses chansons intitulée Genesis et on revient juste après.
Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir des 21h et samedi à partir des 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la question liée à la spoliation des biens fonciers et immobiliers en RDC. Nous avons également analysé les forums qui s'étaient mis à Beni du 23 au 25 février sur la problématique des ZDF. Participe à cette émission, John Kanunu, il est correspondant de la radio internationale allemande Deutsche Welle. Madame Faïda Mwangiloa, elle est membre de la société civile, elle est experte en genre. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Gaben à Butembo en RDC. Au Nord Kivu, la situation reste extrêmement tendue dans une vaste partie du territoire de Masisi. Selon plusieurs sources locales, des violents combats ont opposé depuis vendredi matin les rebelles de l'FCM-23 aux miliciens Wazalendo sur l'axe Kinyumba. Depuis l'aube, des détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues autour du village de Kinyumba, situé à une dizaine de kilomètres au nord de Nyabiondo, dans le secteur Osso-Banyungu. D'après ces mêmes sources, il s'agirait d'une attaque lancée par les combattants de l'FCM-23 contre les positions tenue par les miliciens Wazalendo. Ces hostilités interviennent après une journée déjà marquée par des fortes tensions sur l'axe Mahanga, à quelques kilomètres plus au sud de Nyabiondo. Là aussi, des affrontements ont été signalés autour de la colline Kilongo près de Buimba, suscitant une vive inquiétude au sein de la population. Et vers 18h jeudi, un engin militaire a explosé dans les quartiers Isiro au centre de Nyabiondo, blessant 3 civils. Parallèlement, d'autres sources ont signalé une contre-attaque de l'FCM-23 contre les Wazalendo à Kasenyi. L'objectif serait notamment de bloquer l'avancée des forces pro-gouvernementales en direction de la cité minière de Rubaya qui demeure sous contrôle rebelle. Depuis une dizaine de jours, les combats s'intensifient entre des groupes Wazalendo alliés au FRDC et les rebelles de l'FCM-23 dans plusieurs zones du territoire de Masisi. Une situation qui aggrave la crise sécuritaire et humanitaire, particulièrement dans les secteurs Osso-Banyungu et Katoï ainsi que dans la chefferie de Baoundé. John Kanyunu, vous avez souhaité nous parler des enjeux de l'intensification des combats autour de Rubaya. On vous écoute.
Oui, Guy Maté, comme vous venez de le souligner là, depuis quelques jours, il y a des affrontements qui ont lieu entre les Wazalendo, alliés des FRDC et la FCM-23, dans plusieurs entités du territoire des Masisi, mais aussi du territoire des Walikale. Alors, avec toutes les négociations qu'il y a et avec certains accords qu'il y a déjà eu entre le gouvernement congolais et l'FCM-23, d'une part, de l'autre part, entre le gouvernement congolais et le Rwanda, mais aussi les États-Unis. Alors, ces affrontements, comme vous avez parlé de Rubaya, les analystes se posent des questions. Pourquoi Rubaya? Est-ce une façon pour les alliés de l'armée congolaise ou l'armée congolaise elle-même de récupérer cette entité afin de couper peut-être les sources de financement de l'FCM-23, parce que à part les minerais, il faut le dire, il y a aussi la douane qui génère de l'argent aussi à ces mouvements rebelles. L'enjeu des Rubaya, il est très 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 pertinent parce que Rubaya, c'est la mine la plus importante de la région qui fournit les minerais que nous connaissons tous. Alors, la vraie question à se poser, c'est celle de savoir pourquoi à ce moment, alors qu'il y a un cessez-le-feu proposé par le président angolais João Lourenço, je m'interroge, est-ce une façon pour l'armée congolaise de prouver aussi sa montée en puissance, parce que à un certain moment donné, il y a certains concitoyens qui se disaient, mais bon, pourquoi c'est seulement l'armée qu'on doit repousser? Et selon certaines informations, le commandant suprême aurait mis beaucoup de moyens dans l'armée, dans la logistique surtout, pour essayer un peu d'échanger la tendance. Alors, certaines personnes se posent des questions, est-ce que cette montée en puissance dont on observe aujourd'hui, mais les gens qui sont dans la zone en combat, ils craignent peut-être qu'à un moment donné, que l'AFCM 23 pourrait aussi peut-être rentrer dans la danse, et puis voilà, parce que jusque-là, si on peut lire sur leur page tweet, donc X aujourd'hui, Facebook et autres, ils sont dans une sorte de plainte, de lamentation. Alors, la population qui vit dans ces zones-là, elle ne sait pas à quel sens se vouer, parce que dès lors qu'il y aura des combats maintenant corps à corps, parce que jusque-là, on parle des attaques des drones, bien sûr, il faut attaquer, il faut bombarder, il faut utiliser l'artillerie, mais l'artillerie sans l'infanterie ne marche pas tellement, bien sûr, à moins que le gouvernement ait décidé, ou l'armée congolaise et ses alliés décidé de faire des attaques ciblées, parce que l'attaque du 24, si ma mémoire ne me trompe pas, qui a causé la mort au porte-parole de l'AFCM 23, porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Willy Ngoma, ce serait dans la logique des attaques ciblées de certaines têtes de l'AFCM 23. Est-ce c'est là l'approche actuelle du gouvernement pour voir comment en finir avec ces mouvements rebelles? Aucune idée jusque-là, parce que de toutes les façons, il n'y a pas de communication officielle, peut-être que c'est moi qui ne suis pas actualisé par rapport à cela, pour revendiquer cette attaque ou l'assassinat ciblé du porte-parole militaire de l'FCM 23, Willy Ngoma. Donc, avec le cessez-le-feu, avec toutes les négociations qu'il y a, je pense que chacune des parties cherche à imposer son langage, peut-être pour peser lorsqu'il y aura peut-être des négociations proprement dites dans le vrai sens. Donc, on espère que les choses vont évoluer pour que la population retrouve la paix.
Merci, Madame Faïda Mongiloa. Justement, comment vous expliquez cette subite intensification des combats au moment où les partis, en principe, devraient se conformer au cessez-le-feu proposé par le président angolais?
Merci. Vous savez, l'intensification des combats en ce moment, c'est une grande déception pour la population qui venait de suivre dernièrement l'accord de Washington, dire l'accord de Doha qui parlait de cesser les faits. Donc, est-ce qu'on se pose des questions au niveau de toutes les parties? Est-ce que chacune cherche à monter des stratégies pour mettre la barre un peu plus haut? Parce que quand je vois par exemple Rubaya, les gens voient seulement la zone minière, mais Rubaya c'est aussi une zone agricole. Moi j'ai été à Rubaya pour des raisons humanitaires il y a plus de 20 ans, et c'est toute la zone, quand vous quittez Goma, vous allez à Rubaya, sur toute la, sur tout le chemin, c'est des zones agricoles. Donc, et pour le moment, il y a des populations qui commençaient à rentrer, à regagner dans leurs milliers. Je pense vraiment qu'il y a nécessité de voir comment mettre en application les accords signés. C'est tout ce que la population attend. Parce qu'une guerre, on sait quand on la commence, mais on ne sait pas quand elle va se terminer. Et dans tout cela, c'est des mères, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des personnes hospitalisées qui sont en souffrance. Franchement, quand vous regardez la situation humanitaire, vous avez pitié de nos populations. On peut tout dire, mais il y a lieu de privilégier, en tout cas, la voie de paix. C'est l'unique voie qui peut nous aider à reconstruire notre pays. C'est possible, nous ne devons pas nous décourager, même lorsqu'il y a ces déviations, que moi j'appelle déviations parce qu'on ne sait pas qui va gagner, mais il faut absolument faire tout pour mettre fin à ces atrocités.
Merci, professeur Pierre Virgence. Pour vous également, comment on peut expliquer cette subite intensification des combats dans cette zone?
Mais je crois qu'en fait, il s'agit pour une des deux parties pour le moment de montrer qu'elle peut récupérer du territoire et donc modifier les rapports de force de façon à ce que les négociations qui sont en, je dirais, qui se tiennent de façon continue, ça n'arrête pas en fait de négocier, pour que ces négociations enregistrent un rapport de force. Ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure cette offensive des FARDC et des Wazalendo pourra se concrétiser et permettre ou non de réussir à prendre l'essentiel du territoire en question. Roubaïa, on le sait, c'est une mine énorme. Il y a presque 30 000 exploitants artisanaux qui se trouvent là. Donc des gens dans une situation très précaire. John Canyonou évoquait le fait que les populations ont faim si elles sont encerclées et qu'elles n'ont pas accès à la nourriture. C'est évidemment une question fondamentale. Mais on voit bien que les acteurs, que ce soit du côté des FARDC ou du M23, pardon, eh bien effectivement, là on voit bien que les acteurs, eux, ont un calcul cynique d'occupation du territoire et éventuellement d'accaparement des ressources. Et donc, c'est vraiment assez inquiétant. On ne sait pas du tout si les FARDC et les Wazalendo vont pouvoir garder ce qu'ils disent qu'ils viennent de prendre, s'ils vont pouvoir continuer à avancer, ou bien si on s'attend à une nouvelle attaque de l'armée rwandaise par l'intermédiaire de ces supplétifs du M23, qui alors ferait que les FARDC et les Wazalendo seraient obligés de reculer. Et ça, on ne sait absolument pas. L'utilisation de drones au début de la semaine, quelqu'un vient d'évoquer maintenant, ben, c'est effectivement une utilisation qui change complètement la manière de combattre. Et ça, on va voir ce que ça donne. On ne sait pas si dans ce domaine-là, le Rwanda est en retard ou pas, si le Rwanda peut mobiliser un nouveau type d'armes que sont les drones, ou bien s'il est dépassé par les FARDC.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Amani de Mark El Sambo. On se retrouve juste après.
Tunabakwa Tunia nzima ya nyamaza hawasemi kitu Mambo haya yaishe Amani ya kudumu ikae
Amani du reggae congolais Mark El Sambo. À travers cette belle chanson, Mark El Sambo appelle au rétablissement de la paix en RDC. Je rappelle que nous avons dans cette émission John Kanunu, correspondant de la radio internationale allemande Deutsche Welle, Madame Faïda Mangiloua, membre de la société civile et experte en genre, et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue, professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Graben à Butembo en RDC. Madame Faïda Mangiloua, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler du mois de mars, qui est consacré à la femme, et plus particulièrement de la journée du 8 mars, selon les informations partagées le 23 février par Son Excellence la ministre en charge du genre, famille et enfants. On vous écoute.
Merci beaucoup. Je sais que d'ici deux jours, le 1er déjà, on commence le mois de la femme. Et je voulais bien parler de ce sujet-là qui nous touche à cœur. Et nous avons suivi les informations partagées en date du 23 par Madame la ministre Micheline Ombaï. Donc, elle a partagé les thèmes parce que chaque année, il y a toujours un thème arrêté au niveau international, un thème qui est adapté au contexte du pays, le thème national. Je reprends ici que le thème international, c'est droit, justice et action pour toutes les femmes et filles. Et au niveau national, c'est droit garanti, autonomisation durable pour toutes les femmes et filles. Alors, quelle est la spécialité pour cette session? Vous savez, nous avons suivi les informations, au moins pour la première fois, nous allons avoir un atelier qui nous permettra d'évaluer des politiques et actions prises en faveur des femmes et des jeunes filles. Très souvent, lorsqu'on parle de droits des femmes, les gens pensent que c'est une faveur. Non, quand on parle des droits des femmes, on ne parle pas seulement de droits des femmes, mais on parle des droits des membres de la communauté. Les femmes, les filles font partie de la communauté. Et lorsque les droits de ces membres de la communauté sont reconnus, c'est toute la communauté qui en bénéficie. Et là, ça sera également la célébration ensemble avec les hommes qui n'ont pas de comportement toxique. Nous appelons cela la masculinité positive. Donc, ça concerne les hommes qui font des efforts pour améliorer les conditions de travail des femmes, qui font des efforts pour scolariser leurs garçons comme leurs filles. Donc, nous allons passer en revue toutes ces politiques et et je pense que les femmes se préparent à travers le pays. Mais c'est bien dommage que nous sommes en train de parler du mois de célébration des droits des femmes pendant qu'il y a au pays la guerre. Donc depuis l'année passée, nous célébrons ce mois avec beaucoup de douleur. Mais rien n'empêche, nous sommes en contact avec les collègues activistes des droits des femmes qui sont dans les zones en guerre, qui sont aussi en train de se préparer pour organiser des manifestations. Ce qui nous donne l'occasion d'analyser la situation des droits, mais aussi de faire des revendications. Donc, je rappelle à l'opinion que depuis l'instauration d'un nouvel ordre politique en RDC, depuis l'année 2003, il y a eu beaucoup de politiques qui ont été conçues. Et on doit voir quelles sont ces politiques qui ont des difficultés pour connaître une mise en application. Quand je me rappelle, par exemple, du document des stratégies d'intégration du genre, adopté en 2004, c'est un document qui a arrêté des stratégies pour voir comment asseoir une politique d'intégration du genre dans tous les secteurs de la vie nationale. Il y a la politique nationale genre en 2010 qui a été adoptée. Nous avons aussi des documents, des stratégies de lutte contre les violences sexuelles. Et quels sont les mécanismes qui ont marché pour empêcher les violences sexuelles? Voilà toutes ces questions qui nous préoccupent et qui font assez que, en tout cas, le mois de la femme est attendu par des jeunes, par des femmes, par des hommes qui sont là pour soutenir cette politique de promotion de la femme. Et nous espérons que c'est aussi une réponse pour la question de paix, parce que des femmes sont des actrices de paix. Elles travaillent jour pour jour pour que les populations vivent en paix. Malgré les contextes des conflits, les femmes sont sur terrain pour répondre aux besoins de la population. Vous allez les retrouver dans les camps des déplacés. Elle est déplacée, mais elle se démène pour nourrir les enfants, pour scolariser les enfants. Voilà, et M. Guy, le résumé par rapport à ce thème-ci.
Merci, professeur Pierre Vigence. Madame Faïda Mwangi doit la relever ici. Sur le plan normatif, nous avons quand même beaucoup d'avancées dans ce pays par rapport, n'est-ce pas, aux droits de la femme. À côté de cela, il y a tous ces mois, toutes ces journées qu'on utilise, n'est-ce pas, pour célébrer la promotion des droits de la femme. Mais est-ce qu'on peut évaluer l'impact de toutes ces initiatives sur la promotion des droits de la femme, surtout dans un pays comme la République démocratique du Congo?
Ah, je dirais tout simplement qu'il n'y a qu'une manière de l'évaluer, c'est de voir dans quelle mesure, concrètement, sur le terrain, dans les marchés, dans les maisons, dans les lieux de travail, les femmes obtiennent des droits qu'elles revendiquent, ou si on considère que on doit toujours attendre l'autorisation du mari pour leur donner accès à telle ou telle position, ou bien si on doit toujours attendre que le mari signe quelque chose. Et on sait que c'est un des gros problèmes, effectivement, des mamans sur les marchés qui font du commerce, c'est que elles ne sont pas, dans les faits, acceptées comme propriétaires réelles de leur entreprise, et donc même si juridiquement il y a eu des avancées, même si symboliquement les journées dont vous avez parlé et dont Madame Faïda Mwangwila a parlé, ces journées sont significatives, hein, c'est du symbole, ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien, c'est du symbole, mais effectivement ça doit être suivi d'actions concrètes, sinon les gens et surtout les femmes vont considérer qu'on se moque d'elles. Et voilà, il faut aussi voir qui on engage dans les entreprises publiques, qui on engage sur le terrain, à qui on reconnaît la propriété, je dirais, concrète, matérielle, de toute une série de biens. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est un travail vraiment de très longue haleine. De nouveau, il faut commencer tôt et en se disant que voilà, ben, changer la mentalité de toute une population, c'est quelque chose de long, mais il faut espérer et continuer.
Merci. John Kalounou, on va terminer cette émission avec vous. Nous l'avons dit, sur le plan textuel, sur le plan théorique, il y a beaucoup d'avancées, mais on se rend compte que dans la pratique, on ne sent pas, n'est-ce pas, ces avancées. Est-ce que la perception de l'homme congolais ne peut pas aussi constituer l'une des pesanteurs à la promotion des droits de la femme dans ces pays?
Oui, là vous avez raison, parce que, vous savez, les droits de la femme, bon, moi je suis d'une masculinité positive, donc j'encourage et j'accompagne même les femmes à la recherche de leurs droits, dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et moi je pense que c'est à un moment donné, il faut que la femme prenne conscience de ce qu'elle veut, de ce qu'elle cherche normalement, parce que on ne peut pas être en train de chercher ses droits ou de lutter pour ses droits, et au même moment on se laisse comme si on était une sous-personnalité. Donc je pense que le mois de mars doit être utilisé par les femmes, par nos femmes, pour essayer un peu de voir ce qu'elles peuvent faire pour que leurs droits soient respectés, parce qu'on parle des parités. Notre constitution consacre la parité, la chance entre hommes et femmes, c'est déjà un bon départ. Et je pense que avec ces journées, les femmes, comme les défenseuses des droits des femmes, heureusement qu'on est avec Madame Faïda Mwangwila dans cette émission, je pense qu'elle travaille avec ses collègues dans ce sens-là, mais il faut pas que les femmes profite de la journée du 8 mars pour acheter des pagnes, pour faire des fêtes, je ne sais pas, prendre de l'alcool, se saouler. Non, c'est normalement une journée de réflexion, de voir comment est-ce que elles vont lutter pour que la consécration de la parité dans notre constitution soit effective. Donc c'est un peu cela, mais aussi Les dames qui sont dans des grandes agglomérations, bien sûr, on assiste à certains séminaires, à certains ateliers, dans ce sens-là, mais les organisations des droits des femmes doivent faire tout pour ramener aussi ces ateliers, ces formations, ces séminaires dans des milieux reculés pour que les femmes qui vivent dans ces milieux-là soient au courant de leurs droits, qu'elles sachent que exactement la constitution de leur pays leur octroie la parité. Hein, donc ça, avec ça, avec le temps, bien sûr, comme l'a dit le professeur, ce n'est pas une lutte qui va payer aujourd'hui ou ni demain directement, non. C'est une lutte, mais elle doit être vulgarisée et être enseignée par des femmes qui vivent dans des grandes agglomérations et qui sont conscientes de leurs droits, et aux femmes de différents villages, parce que notre pays, c'est un pays continent, donc je pense que c'est mois de mars, peut-être avec l'encouragement de la ministre de Titelle, espérant qu'il y aura quand même certaines organisations d'ateliers et de séminaires dans certains milieux reculés. Malheureusement, il y a certains endroits où les organisations non gouvernementales de défense des femmes qui ne peuvent pas venir de la partie peut-être gouvernée par l'État congolais et pour aller sensibiliser celles qui sont dans des zones occupées par des rebelles. C'est aussi une réalité, c'est aussi un enjeu, mais je pense que si elles ont les moyens d'atteindre toutes les couches des femmes dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo, ça va nous amener à une avancée.
Merci.
Et d'ici quelques temps, quelques années, on ne parlera plus droits des femmes parce que leurs droits seront connus de tous et seront respectés par les hommes.
Merci.
Hein, bien sûr, Madame Mwangi l'a dit, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de l'éducation. Comme on a toujours dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc nous souhaitons le mois de mars à toutes les femmes de notre pays et qu'elles profitent de ces mois ici pour valoriser leurs droits.
Merci.
Et faire valoir leurs droits, mais aussi enseigner celles qui sont dans des coins reculés, comme je l'ai dit tantôt, pour qu'elles soient au courant de leurs droits. Voilà.
Merci. C'est par là que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Faïda Mwangula, professeur Pierre Virgence et M. John Kanyounou. Merci aussi à André Mongou qui était à la technique avec la participation de Dieudonné Nyangasa. La présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site de Radio Okapi.net. Nous allons nous séparer avec Okosinga Mfumu, l'autre composition de King Kester Emenea, chanson composée dans l'orchestre Victoria Eleison en 1984, et on se retrouve le samedi prochain. Oh,
Mama, 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 mama